Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la Radio Mondiale et en cette fin d'après-midi, nous allons bien sûr revenir sur cette 7e soirée de Ligue des Champions si spectaculaire. Et enfin, un match mémorable au Parc des Princes. Le PSG a gagné après avoir été mené au score par Manchester City, 2-0, rien que ça. Une remontada au palmarès des Parisiens qui ont exposé la tactique voulue par Luis Enrique, qui l'ont appliqué aussi au nez des Citizens et de Pep Guardiola. Une équipe de Manchester qui, elle, a exposé ses errances et ses manquements. Le PSG est-il déjà qualifié? Pour autant, il reste un match et à Stuttgart, n'est-ce pas Dominique? Bonjour Dominique Sévrac.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Tout va bien?
Tout va mieux déjà.
Puis alors, notre camarade qui était hier, qui a fait vibrer les supporters du Paris Saint-Germain à travers les ondes de RFI. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Vous aussi, et en plus vous serez à Stuttgart, et ça c'est important.
Oui, aussi, oui.
On y sera.
Le bilan de cette 7e soirée, donc, est perspective avant le dénouement en multiplex géant la semaine prochaine. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
On nous parlera de Manchester City alors.
Oui, effectivement.
Notamment.
Notamment.
Notamment, bonjour Naïm Bagnol.
Salut Annie, salut à tous.
On continue, il y aura aussi un autre petit sujet dans Radio Foot. Avec les albums Panini qui fêtent leurs 50 ans, un demi-siècle que les enfants et les adolescents collectionnent les autocollants des footballeurs du championnat de France. Un anniversaire qui réveille des souvenirs d'acteurs de la Ligue 1. Et vous en entendrez quelques-uns en fin d'émission. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Alice Ménard est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Là, qui va rentrer dans la surface de réparation, le centre rentré et la réduction du score du Paris Saint-Germain, que c'est bien fait, il n'y aura pas hors-jeu cette fois. Il le célèbre à peine ce but, mais ça fait bien 2-1 pour Manchester City. Oh, le but et l'égalisation pour le Paris Saint-Germain, et c'est signé Bradley Barcola qui était cette fois sur le côté droit. La frappe de Ramos, oh, le quatrième but de Ramos, et ça fait 4-2. Il est validé ce but. Et ça fait donc 4-2 pour le Paris Saint-Germain.
Je suis content, très content.
Je suis content, a-t-il dit, même en français. Il s'est lâché, Luis Enrique, hier soir, Dominique.
Ah, il y a de quoi.
J'ai cru quand vous avez dit « je suis content » que c'est Thomas Tuchel qui le disait.
Il était là.
Mais il parlait bien mieux français, il avait fait plus d'efforts. Alors évidemment, il faut dire que tous les ingrédients d'une grande soirée de Ligue des Champions étaient réunis quand même hier soir au Parc des Princes. Même le temps tempétueux, hein, n'est-ce pas, cher ami, Salim, créait une ambiance particulière au-dessus du stade du PSG. Pluie battante, deux buts de Manchester City encaissés en début de deuxième mi-temps et cette remontada. Est-ce un match d'anthologie, historique, un match mémorable? Quel adjectif mettriez-vous, Dominique, bon, ici dans Radio Foot?
J'ai écrit que c'était un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Alors, évidemment, du point de vue de Paris, hein, parce que je pense que la City, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais notamment défensivement. Mais oui, il y a une forme de quand tout réussit après avoir tout appris, après que tout a raté.
Bon, tout n'a pas réussi non plus. Hein.
Bah, quand même. Bah, quand
de,
même.
On va y venir. En début
mais
juste,
oui, mais après que tout a raté.
Sur le qualificatif,
raté,
donc.
Tout n'a pas été raté non plus.
Quel qualificatif?
Quand tu mets 2-0 à la 53e, je pense que beaucoup, et moi le premier, j'étais en train de me dire que c'était fini pour la Ligue des Champions cette saison.
Cédric, on en a été nombreux, je crois. Cédric, quel qualificatif vous utiliseriez?
Moi, je dirais enthousiasmante. parce que, non, mais c'est agréable de voir le Paris Saint-Germain faire un vrai match de Coupe d'Europe, cohérent et avec une attitude, en tout cas, d'équipe qui peut aller chercher des équipes comme Manchester City. Après, voilà, on attendra.
Non, mais juste sur le qualificatif, on va venir à la suite. Qu'est-ce que vous diriez, Salim?
J'utilise le même terme que Cédric, effectivement. Quand vous êtes mené comme cela 2-0, régulièrement, le PSG a été observé en mode bah, ils n'arrivent pas à réagir et on va les critiquer à juste titre derrière. Bah, ils ont réussi à se relever. Donc oui, le côté enthousiasmant est remarquable, on peut l'utiliser.
Naïm.
Moi, c'est l'espoir.
C'est l'espoir, parce que je me dis qu'on va rajouter après le match.
Le match de l'espoir, donc.
Ouais, après le match de Stuttgart, on va incorporer Kvaratskhelia. Et je me dis que ça fait quand même un match.
On les voyait déjà qualifiés, donc.
Ah bah, faudrait quand même... Oui, je les vois qualifiés.
Bon, on va le voir. On va voir ça. En tout cas, un Parisien...
C'est parce que hier, personne ne pensait que Paris allait gagner. C'est sauf Bruno Constant. Mais...
Un Parisien ne se posait pas tant de questions. Et c'est Achraf Hakimi qui savourait cette victoire. À votre micro, justement, Cédric.
C'est un des matchs plus dingues. Depuis que je suis là à Paris Saint-Germain, c'était magnifique. La sensation de la remontada, c'était incroyable. Et je pense que cette équipe, il mérite un victoire comme ça. Parce que je sais que cette année, ce n'était pas facile. Heureusement, la chance, elle venait de notre côté et on a gagné. C'est un match qui donnait plus de confiance pour les avenirs qui viennent. On a fait une chose très difficile, faire une remontada contre une grande équipe comme le City. Je pense que c'est l'avenir d'un grand chose, il devait continuer avec cette mentalité.
Alors revenons à nos moutons, et on le disait, est-ce que, bien Cédric, vous qui étiez au commentaire, est-ce que vous avez douté à un moment qu'il y aurait un tel renversement et que Paris allait marquer des points et sortir de sa zone de relégation?
Pour le Paris Saint-Germain, j'ai douté, oui. Après une première mi-temps qui était assez convaincante, mais c'est vrai que quand le PSG encaisse deux buts dans les sept premières minutes en deuxième période, effectivement, on se demandait comment ça allait être possible, parce qu'il y avait toujours cette inefficacité, même si il y avait des certitudes dans le jeu face à une équipe de City qui n'était pas non plus, on va dire, souveraine. Mais je pense que le Paris a bien fait de marquer tout de suite dans la foulée pour ne pas eux-mêmes douter. Et derrière, ce qui a fait qu'ils ont pu enchaîner et se rendre le match un peu plus facile derrière.
Salim. Le doute était présent parce que sur les dernières sorties en Ligue des Champions, on avait souvent eu ce genre de rencontre où le PSG avait les opportunités, mais une barre, un arrêt miraculeux faisait qu'il n'y avait pas de but.
Et Salim, ce but quand même qui a annulé à cause de la VAR, juste au moment de la première mi-temps.
Totalement, pour un bout de genou,
pour 3 mm.
On ne sait même pas effectivement pour rien, mais bon,
bien sûr, mais ça veut dire qu'on se disait, ça y est, c'est encore le stigmate de
vous avez raison,
occasion ratée.
Tous ces éléments-là nous faisaient dire qu'à 0-2, bon ben, le PSG va encore plonger, voire peut-être même... Moi, sincèrement, je me suis dit que le PSG allait en prendre un troisième. Sincèrement, sur le coup, que ça allait faire 3-0, que ça allait être très violent, que peut-être même Nasser allait prendre des décisions. J'allais très loin dans mon propos, mais c'est vrai qu'on pouvait se dire...
Comme quoi ça va vite.
On pouvait se dire, effectivement, comme quoi ça va vite, parce que le PSG, en réduisant l'écart très rapidement, a effectivement retiré l'enthousiasme de City, en tout cas, l'a réduit quasiment à néant très rapidement.
Dominique,
ouais, bien sûr qu'il y avait des doutes, Annie, parce qu'en fait, ça fait des mois que Luis Enrique nous dit que ça ira mieux demain, qu'il voit des progrès à l'entraînement, et ça se traduit pas vraiment dans les chiffres, dans ce qu'on voit. Il dit que Mbappé, on peut le remplacer, 44 buts la saison dernière, on peut avoir 4 joueurs qui mettent 11 buts, ça fera pareil. On voit que Barcola en Ligue 1, c'est déjà bien, mais ça se transpose pas en Ligue des Champions, où là ils étaient à 3 buts avant le match à Salzbourg, j'enlève parce que c'est vraiment l'équipe contre qui tout le monde gagne. Avant Salzbourg, ils avaient fait 5 matchs, ils avaient marqué 3 buts. Et là, ils en ont marqué 4 en 33 minutes.
Non, mais ils nous ont tous étonnés.
Et pas sur pénalty.
Donc c'est, et il y en a un qui a annulé pour la VAR, vous l'avez dit, pour 1 mm. Mm-hmm. Donc c'est quand même un problème.
Et c'est contre
l'adversaire de leur poule. Alors, ce n'est pas des poules, mais c'est l'adversaire, a priori, le plus dur. Avec peut-être Arsenal, quand on a regardé le tirage au sort. Mm-hmm. On ne savait pas que City serait à ce moment-là de la saison.
Là, face à Arsenal, ça a été dur.
D'ailleurs, ça a été très dur. D'ailleurs, mais il y a encore un écart avec des grandes équipes. Le PSG n'est pas devenu un favori de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, c'est plus fort. Malgré sa défaite, le Bayern, c'est plus fort. Arsenal, c'est plus fort. Le Barça revient bien. Lui aussi fait un match fou la veille contre Benfica. Mais il y avait des énormes buts. Et tout ce que Luis Enrique nous dit depuis des mois a été validé. Ouais. Qu'il pouvait y avoir du talent offensif partout, oui. Ils ont marqué des buts par, évidemment, leurs attaquants, Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos, mais aussi par Neves. Il a 19 ans, il vient d'arriver, il a fait un match incroyable.
Excellent, c'était l'homme du match.
On voit des joueurs progresser.
Enfin, parce qu'on le voyait briller depuis qu'il était aligné. Justement, dans la ligne de ce que dit Dominique Naïm, est-ce qu'hier, en appliquant finalement, peut-être et en réussissant à les appliquer, ou en les ayant enfin intégrés, je ne sais pas encore, tous ces préceptes de jeu de Luis Enrique, est-ce qu'il y a une vraie victoire tactique, alors pas de l'élève, mais presque au niveau palmarès, de Luis Enrique sur Pep Guardiola?
Il y a surtout la victoire du coaching, puisqu'en fait le match se transforme surtout quand Dembélé et Zaïre Emery rentrent. Alors je dis pas que Guardiola a raté son coaching, même si j'ai pas d'infos sur Diaz, pourquoi Diaz sort.
Ouais, non, on l'a pas eu.
Blessé, pas blessé, je sais pas.
Mais aussi, il était
grippé, manifestement.
Il était sous Doliprane, ça lui réussit visiblement.
Au début, c'est le coaching de Guardiola parce que Grealish rentre, il marque.
Et le coaching de comment de Luis Enrique a tout fait, parce que Dembélé fait un match qui est fantastique. Je pense que le fait d'avoir un Dembélé à ce niveau-là,
un demi-match donc.
Oui, un demi-match fantastique. Le fait d'avoir un Dembélé à ce niveau-là, ça a quand même transformé, je pense, Barcola, qui a été très bon quand Dembélé est rentré. Il a fait une bonne première pas mi-temps. Moi, je pense que le PSG était meilleur que City sur l'ensemble du match. Même si à 2-0, tout le monde se dit, c'est peut-être pas vrai. Moi, je pense qu'ils l'ont été.
On sentait que c'était contre le coup.
Sur la dernière demi-heure, ils sont absolument fantastiques. Zaïre Emery a été bien meilleur au milieu de terrain que Fabien Ruiz. Et puis voilà, et derrière, tout le monde se met au niveau. Et oui, une victoire de Luis Enrique, une victoire tactique, une victoire du coaching. Et surtout, en plus, il n'a pas de numéro 9 au départ, parce que Ramos n'est pas titulaire non plus. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que dorénavant, Luis Enrique a trouvé l'équipe type ? Est-ce que dorénavant, on s'appuie là-dessus sur les 6 mois qui arrivent ? Je l'espère.
Il y a Edvarra qui arrive, attention, tu viens de
lui. Oui, Edvarra Tchkelia qui va arriver. Ouais. Donc ça veut dire Barcola rapatrié dans l'axe, Edvarra sur le côté.
Je sais pas. Dembélé, donc, dans ces misères, City a reconnu la supériorité du Paris Saint-Germain.
Ils n'ont pas arrêté de dire...
C'est peut-être aussi une façon de dire qu'ils sont tombés sur plus fort et d'oublier un peu. D'oublier ses propres faiblesses.
Messieurs, ils le disent, et notamment Bernardo Silva, alors brut de spontanéité, brut aussi de sincérité, Bernardo Silva, qui évoque donc et qui fait le bilan de ce match.
On a bien commencé la deuxième mi-temps, et après le Paris, pendant 35 minutes spécialement, ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que nous. Il faut dire les choses simples. Ils ont gagné la bataille dans tous les terrains. Ils ont été plus intenses, plus compétitifs, plus agressifs, et ils ont mérité de gagner ces matchs. On est un peu frustrés, bien sûr, mais maintenant on joue à la maison contre Bruges. Il faut accepter la situation, et on sait si on gagne, on se qualifie pour le play-off. C'est pas la meilleure situation, mais bon, on va jouer à la maison avec nos supporters et on va tout donner pour gagner ces matchs.
C'était profondément sincère, c'était une déclaration aussi, on sent le peut-être un certain désarroi aussi, Salim.
C'est vrai que ces dernières semaines, ce désarroi avait un peu disparu. On en parlait l'avant-veille avec Dominique au téléphone ensemble et on se disait que City allait mieux quand même ces dernières semaines.
Ils avaient gagné 6-0 à Ipswich.
Absolument.
Et puis là, à Landmark, Grealish marque. Donc on se dit, oui, mieux.
C'est ça. Et puis même, au-delà même de cette victoire-là, il y avait eu quand même une séquence plus intéressante après la fameuse où City ne gagnait plus. Et il y avait, oui, des signes positifs. Alors vous allez me dire, Pep Guardiola, au niveau individuel et personnel, c'était moins le cas. Mais oui, des joueurs qui quand même retrouver le sourire. Et hier, il y a eu des séquences, même à 0-2, sincèrement. Alors, d'un côté, on se dit, City va marquer le troisième, mais City avait tellement peu d'opportunités au final, parce que Naïm le disait, même en première période à 0-0, le PSG était ultra dominateur. Il y a juste Guardiola qui arrête à un moment donné un arrêt. Il y a très peu d'opportunités pour City. City n'a fait que balancer. En fait, City n'a pas fait du City.
On a vu le visage en gros plan de Kevin De Bruyne qui, lui aussi, résumait sans parler.
Mettez-vous quand même, vous imaginez dans sa situation, il y a eu la volée qu'ils ont pris contre le Sporting, qui est une vraie volée.
4-1.
Il y a eu la défaite contre le match nul contre le Feyenoord alors que tu mènes 3-0. Là, tu mènes 2-0, t'en prends 4 et t'es vraiment inexistant. Alors, sur l'ensemble du match, t'es pas bon sur la dernière demi-heure, c'est comme si tu t'étais pas là. Plus ce qui se passe en championnat. Et en fait, tu te dis, OK, il y a eu des blessés, il manque des joueurs, tout ce que tu veux, mais l'effectif est quand même très bon. Ligne par ligne, il y a quand même très grosse équipe.
Il y a une fragilité mentale.
Je me pose la question, il y a peut-être les deux. Je me pose la question à quel point ce qui se passe autour de Guardiola dans sa sphère privée rejaillit sur le groupe, parce que j'imagine qu'un entraîneur qui est dans cette situation-là doit avoir autre chose à penser que le football. Est-ce que son discours n'est plus le même? Est-ce que son attitude n'est plus la même? À quel point ça imprime sur les joueurs?
C'est aussi peut-être.
Je l'ai trouvé très déconnecté de ce qui venait de se passer. Je sens qu'il n'est plus là. Genre, je ne fais pas toutes les confs de Guardiola, mais j'ai regardé celle de la veille, j'ai fait celle d'hier soir. Je l'ai trouvé complètement absent à lui-même, en dehors du truc, il y est plus.
Après, c'est peut-être quelque chose de classique dans le foot, c'est que, on appelle. Il y a des cycles et qu'au bout d'un moment, le discours ne passe plus auprès de joueurs qui sont là depuis très longtemps, Bernardo Silva, depuis très longtemps, et que là, ils achètent des joueurs dans ce mercato, peut-être qu'il fallait le faire un petit peu plus tôt.
Oui, c'est ce qu'on dit, peut-être plus usure mentale que fatigue mentale, et voire usure physique.
Mais quand j'ai vu le match, et j'ai eu la chance de voir pas mal de matchs, soit au stade ou à la télévision, comme beaucoup de City, depuis que Pep Guardiola est là, depuis 2016, je me demande sincèrement si c'est pas la pire défaite que Guardiola a eue à la tête de City depuis 9 ans. j'entends pas au-delà du score, parce qu'il y a eu le 0-4 il n'y a pas si longtemps contre Tottenham à domicile.
Ben, il perd une finale de Ligue des Champions aussi.
Je mets un global avec. Ce 0-2, on l'a dit, c'est vrai, vous menez 2-0 face à une équipe qui, lorsque ça a été souvent le cas, le PSG, quand ils avaient des occasions, ils ne marquaient pas, ben à un moment donné, ça plongeait et ils concédaient potentiellement un troisième but, en tout cas, ils n'arrivaient pas à en mettre. La manière, City a eu 37% de possession de balle, Guardiola s'est totalement renié sur cette partie en laissant la balle à l'adversaire. Le niveau des joueurs aussi. Vous avez des joueurs qui étaient totalement déconnectés, vous avez parlé de De Bruyne, on pourrait quasiment tous les citer, à part peut-être Kovacic et encore. Et puis aussi, Guardiola, par exemple, le troisième but concédé, c'est lui qui fait un changement défensif sur un coup franc défensif, et juste cette séquence, elle est vraiment forte, je vous assure, elle était juste devant moi, j'ai eu la chance de voir ça, c'est que, donc il y a le changement de John Stones qui entre, coup franc défensif, il y a le but de João Neves qui est au second poteau, et là tous les joueurs de City se regardent, c'est pas très radiophonique ce que je vais faire, mais ils sont en train, avec les bras, de se regarder, mais c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est toi. Personne ne savait qui devait aller sur João Neves, et personne ne savait qui devait prendre sa place, bref, il n'y avait pas de repère, c'est Guardiola qui fait ce changement avant un coup de pied arrêté, on nous dit toujours de jamais le faire.
Giroud disait toujours jamais faire un changement sur un coup de pied arrêté défensif.
Bah oui. Voilà, c'est bah une... ouais.
Et là, bah, il c'est a fait le résultat.
Après, il a fait, c'est un grand classique chez Guardiola, à un moment donné, en première mi-temps, il change, donc il y a les quatre, bah, c'est un il a les quatre défenseurs. En fait, ils changent de poste. Ils intervertissent deux fois, je crois, que dans la.
Ouais, avec ça. Ruben Dias, avec
deux fois dans la. Deux fois dans la première période. Donc c'est vrai que ouais, j'imagine que.
Bah
non, mais non, mais en tout cas lui, j'imagine qu'il a son idée en tête et que
oui,
ça a
lui,
fonctionné
oui.
pendant. Ça a fonctionné pendant des années, mais là peut-être que ça ne fonctionne plus et qu'il y a une perte de repères sur le terrain.
Dominique, alors vous parliez de chef-d'œuvre tout à l'heure, mais n'y a-t-il pas quand même peut-être un bémol à mettre justement au regard de ce qu'on dit sur City, c'est-à-dire, ok, c'est un match spectaculaire, c'est deux grosses équipes qui se rencontraient, ou prétendant à ça, et en même temps, le bémol, ça serait parce que c'est un Manchester City malade, là, on en fait le constat.
Oui, vous avez raison, Annie, mais il y avait une telle pression, pour avoir parlé quand même avec quelques salariés du club, plutôt des haut placés, il y avait une telle pression sur eux, ils étaient tellement mal avant le match, ils ont une équipe tellement jeune. C'est-à-dire le mec qui fait le meilleur match, il a 20 ans, s'appelle João Neves, il avait 19 ans il y a encore deux mois. Désiré Doué, au début de saison, il faisait des rentrées assez pathétiques. Il a 19 ans lui aussi. Il a 22 ans. Donc vous voyez, c'est quand même des joueurs extrêmement jeunes. Il y a quelques brésiliens comme Hakimi et Marquinhos, mais franchement, c'est une équipe jeune. Donc je trouve quand même qu'il y a une manière d'espoir de réaliser ça avec ce vécu-là. Et encore une fois, le 6 octobre à Arsenal, il n'existe pas parce que la construction de l'Arsenal avec Arteta, elle est en avance sur le PSG de Luis Enrique. Mais là, on voit qu'ils réduisent un peu l'écart quand même. Au Bayern, déjà, ça avait commencé à être un peu mieux. Et là, on voit qu'un mois plus tard, deux mois plus tard, il y a une vraie progression, quoi. Donc oui, évidemment, ils ont battu un City convalescent, mais il y a quand même des joueurs qui vont mieux.
Ils sont malades, carrément.
Et puis, il ne faut pas oublier comment le PSG démarre sa campagne de Ligue des Champions en battant Gérone 1-0 sur une erreur du gardien à la dernière minute. Il ne faut pas oublier le match du PSV. Enfin, le PSG a aussi montré qu'il n'était
pas tout
bien.
Ils n'avaient vraiment pas eu de réussite quand même sur ces deux matchs-là.
Ouais, mais je pense qu'il n'y avait pas eu de réussite. Il y avait aussi beaucoup de ratés. Il y avait aussi beaucoup d'interrogations.
Mais
tout reposait pas sur la chance.
Aussi,
bien sûr.
City malade ou pas malade. Enfin, le PSG a pas non plus été en grande forme toute l'année. Donc c'est bien aussi d'avoir ce genre de victoire.
Le but de Barcola, Annie, tire sur la barre de Désiré Doué. Ça, c'est un peu le PSG de la première partie de saison. Et puis finalement, Barcola, qui sait pas trop comment il la reprend. Il reprend, il marque.
Pourquoi il est là?
Voilà, il sait même pas pourquoi il est là, pourquoi elle part dans le but. Alors qu'avant, ça n'aurait pas fait but. Il n'y a pas de deux, je vous refais pas l'histoire.
Après, Désiré Doué, il y a quelques semaines, n'aurait peut-être pas fait cette frappe. Il est plus en confiance, il l'attente. Voilà, et derrière, en tout cas, ça
Cédric, est-ce que justement le fait de nous avoir montré peut-être. Commencer à montrer ce que veut imprimer Luis Enrique sur cette équipe de jeunes. Est-ce que pour vous, c'est justement quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour le Paris Saint-Germain et dans les têtes et sur le terrain, et tant en Ligue des Champions bientôt, là, dans une semaine, mais aussi en championnat?
Ils ont tous parlé de confiance, les joueurs. Après, enfin, en tout cas,
ça transforme quand même un genre de résultat.
De toute façon, quand vous perdez Arsenal, quand vous perdez contre le Bayern, vous vous dites toujours qu'il y a un gap, qu'il y a un écart. Une fois que vous battez une équipe comme City, certes, qui est malade, qui est convalescente, ça vous donne donne plus de confiance. Achraf Hakimi, il nous disait ça dans l'interview, il disait ça nous donne de la confiance, on peut construire là-dessus. Effectivement, il y a Kvaratskhelia qui arrive, c'est quand même un joueur offensif qui peut apporter plein de choses, notamment en Ligue des Champions. Donc derrière, il y a un champ des possibles qui s'ouvre et bah, Paris n'est certes pas favori, mais au moins outsider. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seront ravies de les prendre s'ils arrivent à aller en barrage comme... comme ça peut
alors justement en français.
Oui.
Pour l'instant,
oui,
qui pourrait se décider.
Qui pourrait effectivement.
Justement, ce classement a donc été un peu bouleversé. Bon, on a toujours Liverpool, Barcelone et même Arsenal hier avec sa victoire. Il y en a qui restent dans ce groupe des 8. Le Paris Saint-Germain est à 7h 22e, Manchester City 25e et Stuttgart a le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, 10 points aussi et il est 24e. Résultat pour ce projeter un petit peu. Mercredi prochain à Stuttgart. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Dominique ?
Ah bah, ce qu'on peut imaginer, alors, c'est qu'un nul qualifie les deux équipes.
Croyez qu'ils vont se mettre d'accord ?
C'est pas qu'on peut l'imaginer, c'est que c'est une certitude. moi, je pense que ça, c'est des affaires du football des années 80 et encore un peu en Italie il y a quelques années, mais je crois pas que ça existe, ça, dans le foot.
C'était une plaisanterie.
En plus, Stuttgart joue, le PSG aime jouer. Moi, je m'attends à un match spectaculaire et je m'attends effectivement à un nul. Parce que je sais que Paris a quand même beaucoup plus de difficultés à l'extérieur qu'au Parc des Princes. Il y a vraiment un effet Parc des Princes sur le PSG, mais qui est historique.
Hier, c'était historique.
Ouais. Ouais, mais hier, en plus, c'est vrai que les supporters ont fait vraiment une fête à leur équipe. C'était arrivé souvent.
Et à 2-0
contre le Real, le Barça.
Dortmund
oui,
aussi, je me rappelle.
Voilà. Oui, oui.
Du Covid.
Mais hier, il y avait quand même une nouveauté. Il y avait des membres du club. Des membres du club qui ont eu le droit d'aller à Boulogne, ce qui n'avait pas été une première depuis le plan Le Prou, hein, si on a eu d'avoir des ultras, depuis plus de 10 ans, hein,
dans l'autre
15 ans,
tribune.
Qui avait le droit d'être dans cette tribune-là. Et là, ça a donné vraiment une belle ambiance, parce qu'au-delà même des
ultras très bien,
qui
Cédric,
étaient dans cette tribune, il y a même le reste du public qui a chanté dans la tribune Boulogne. Donc, ça a donné quelque chose de très difficile.
Ça pourrait se reproduire. Enfin, en tout cas, il n'a pas dit non.
Stuttgart, c'est 4e du championnat. C'est une super série. Alors, le bonheur pour le Paris Saint-Germain, c'est que ça ouvre le jeu, donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est quand même très, très fort. Donc, un match nul n'est pas fou. Et comme ça, entre guillemets, tout le monde serait content, je vois plutôt ça. Bah,
peut-être que ça passe à 10 points aussi, d'ailleurs.
Alors, une défaite...
Non, c'est vrai, il faudra regarder les autres.
T'es plus maître de ton destin,
voilà,
je veux dire.
En fait, c'est ça, c'est que le PSG est maître de son destin, ce qu'il n'était pas avant le match de City.
Donc, en tout cas, ils savaient avec deux finales, et ils avaient dit deux finales, deux victoires, et ils arrivaient à passer.
Non, parce que si ça gagnait devant, en fait, il aurait pu rester dehors.
Oui, mais si tu es maître de ton destin, si tu peux gagner tes deux matchs...
Si tu gagnes tes deux matchs, oui, mais si les équipes de devant gagnent aussi leurs deux matchs, au final, tu restes à la même place. Alors que en étant en 22e...
Si tu gagnais tes deux matchs, tu étais sûr de passer. Mais parce qu'il y a trop de matchs derrière. Ça se croisait. Voilà.
Là, on va dire que tu es quand même maître de ton destin. Et en plus, je pense que sur une vie... En étant sur une victoire comme celle-là, parce qu'il va pas s'écouler 15 jours, il n'y a pas de trêve internationale.
C'est très rapide.
C'est tout de suite. Donc, en gros, tu vas encore surfer sur le truc. Donc, moi, je les vois aller gagner à Stuttgart, sans dire qu'ils vont leur mettre un carton. Je pense qu'ils vont aller gagner.
Ça serait bien. Ils pourraient finir meilleur club français des 4. Ouais. Alors qu'ils étaient longtemps le pire.
Tu mines de rien, devant, il y a des places. Envoyer des messages à Louis
Saint-Gilles. Oui, il y a quand même un gros ventre mou, là, entre 10 et 12 points.
Oui, il y a une grosse liste en tout cas. Alors, City, eux, ils vont se retrouver à jouer chez eux. Il le disait Bernardo Silva. Effectivement, eux, ils sont juste sur le strapontin qu'il ne faut pas, parce qu'ils sont les premiers relégables. Mais ils ont la chance peut-être de recevoir Bruges.
Oui, sur le papier, effectivement, on se dit chance.
Mais quand on les a vus contre Brentford,
le rappeler contre le Feyenoord, ils mènent 3-0. On se dit, c'est bon, City est de retour, ils prennent 3 buts en 15 minutes. Le Bruges, qui n'a plus perdu depuis 19 matchs, toutes compétitions confondues.
Est-ce qu'ils peuvent se qualifier, les Belges?
Les Belges, ils sont bien passionnés.
Ils ont 11 points, un match nul leur suffit,
voire peut-être même une défaite en fonction des autres rencontres. Donc, typiquement, City est dans une position assez folle où City est obligé de gagner. Vous allez me dire, City doit faire le jeu. À la limite que City ait la position de balle, ils l'auront.
Mais
c'est là où ce qui va être intéressant, c'est surtout la défense. On évoquait le poste derrière droit. Typiquement, Matheus Nunes, il va être de nouveau ciblé. C'est sûr, s'il est à ce poste-là, ou Rico Lewis, qui reste à attendre à ce poste-là. En défense centrale, Akanji, hier, alors que j'aime beaucoup le joueur, hier, il a été assez assez effrayant par séquence.
Ah, il est effrayant depuis quelques temps, Kanji, quand même.
C'est vrai. Et c'est vrai qu'on se dit, mais City peut vraiment trembler au final face à Bruges.
Mais c'est pas votre question, Annie, mais là, cette formule, elle est fantastique, hein, parce qu'on la découvre. Il reste, je crois, dans les 18 matchs qui restent, il n'y en a que deux qui sont sans enjeu. Les 16 autres, il va se passer quelque chose, il y aura une tension, alors que d'habitude, la Ligue des Champions, qu'on connaît depuis
18 matchs, on n'a jamais vu. En France, on a fait des multiplex très longtemps, oui, en première division et tout ça. Mais une chose comme ça, ça va rajouter du piment à cette formule.
Quand on est téléspectateur, on se régale.
Ouais. Bon, bah, vous vouliez passer plus loin. Allez, on y va en pensant à au moins deux équipes.
On sait que c'est l'une des marques de fabrique, hein, les corners pour les Monégasques. La preuve encore ! La preuve encore ! Et voilà Monaco qui ouvre le score grâce au revenant Singo. Correa, il a fait la force, il a fait la passe à Alvarez. Le Stadio Metropolitano va exploser.
Que la contra del Barça, Rafinha está de área. Si marca no tengo voz, Rafinha le pega.
Transition rapide côté madrilène, Vinicius qui a trouvé Bellingham dans la surface, le contrôle à Polo, mais qui profite quand même à Rodrigo.
Le classement donc a été revu, le Real lui, il devait gagner et il a gagné, il se retrouve 16e avec 12 points. Le prochain match des Merengues se disputera dans l'ouest de la France, en territoire breton, là où un petit club, vous savez, résiste ou tente de résister. Hein. On a tous lu Astérix. Ils essayent de résister au gros. Bon, le Stade Brestois a hier manqué sa première mi-temps, battu 2-0, et c'était pas face à un trop gros, c'était le Shakhtar Donetsk. Les barrages semblent maintenant inévitable et Eric Roy est réaliste.
Ça va être compliqué d'atteindre cet objectif des 8 premières places. Ah, il fallait faire presque un parcours sans faute pour nous et puis surtout être dans la surperformance, j'ai envie de dire tout simplement. Et c'est vrai que ce soir, je pense qu'on a même été en dessous de notre niveau. Et à partir de là, comme j'ai dit, face à ce genre d'adversaire, ça suffit pas. Maintenant, il est évident que dans une semaine pile, on aura un gros match. Un match un peu de gala contre les Galactiques, justement. Je pense que ça va faire plaisir à notre public, à nos suiveurs. Mais bon, j'y suis pas encore, moi, personnellement. Je suis plus dans le stade Océane.
Alors, les Néo-Galactiques, s'il les a bien regardés hier soir, puisqu'ils jouaient avant, et puis s'il a écouté aussi maître Carlo Ancelotti, peut-être que ça va être compliqué.
Je crois qu'on est dans un bon moment actuellement. On peut aller chercher des points à Brest. C'est ce qu'on veut faire un meilleur match qu'on a fait à Lille.
Alors bon. Naïm, oui. À vous la balle.
Dites-moi tout.
C'est Brestois.
Oui, non mais en fait Brest, on peut regretter qu'au vu des 4 premières journées, ils en soient là aujourd'hui. Ils auraient presque pu se qualifier directement s'ils avaient tenu...
Ils sont devant le Paris Saint-Germain. Après, et devant le Real quand même.
On parle de Brest, on parle d'une équipe qui joue le maintien en championnat, qui n'aurait jamais dû se retrouver en Ligue des Champions. Ils le sont, c'est mérité, pas de problème. On parle d'une équipe qui a fait des vraies performances. Au final, c'est un retour à la normale. Ils vont aller en barrage et quand même ils se déplaceront au match retour.
C'est la logique de leur calendrier aussi.
Au-delà d'exceptionnel, en fait. Moi, j'ai même pas le qualificatif pour expliquer ce que fait Brest. Mmh. C'est pas méchant quand je dis ils ont
c'est
pas à être
cœur.
Là. Oui, c'est avec le cœur. Ouais, il y a des qualités.
Ouais, même plus que le cœur, parce que quand on fait 1-1 contre Leverkusen en jouant, il y a eu du jeu aussi.
Mais oui.
C'est du foot.
Ils ont des qualités.
Il fait un mauvais match, mais par exemple, contre Leverkusen, il avait été fantastique. Le gardien est très, très bon. Les choix de coaching et les choix de jouer de Derrick Roy sont très bons. C'est une performance inimaginable ce que fait Brest d'être dans les...
Rappelons-le, leur budget c'est 50 millions si je ne me trompe pas.
Ils sont dans les 15
millions. Celui des autres clubs c'est au moins 500 millions.
C'était même moins avant au début de saison, celui d'avant. Donc c'est pour ça que la performance est absolument fantastique.
Ils sont pas mieux classés en Ligue des Champions,
même, bien, hein. Et même si, 8e, même si le Shakhtar n'est pas une grosse équipe, on souhaite que le Shakhtar fait partie des équipes qui ne se qualifiera pas ou qui en tout cas est mal barré pour y être.
27e.
Voilà, tu te dis, c'est quand même fantastique ce que fait Brest.
Moi, je mettrais un petit bémol et je l'ai déjà dit, mais c'est quand même c'est pour nuancer cette nouvelle formule, c'est que le calendrier n'est pas le même pour tout le monde.
Il n'y a pas d'homogénéité
et que Brest a réussi à capitaliser sur un calendrier qui était un peu plus abordable. Au début, ils ont joué Sturm Graz et Salzbourg. Attends. Non mais C'est très bien et bravo à eux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas à Arsenal, tu vas pas au Bayern.
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis.
Et derrière, ça te met mieux et ça te met en confiance pour la suite.
Sturm Graz et Salzbourg, c'est peut-être des équipes mal classées, mais ils sont en Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe, tous les ans. C'est-à-dire que Brest, même la plus petite des Coupes d'Europe, ils l'ont jamais vu.
Et puis Salzbourg, c'est champion d'Autriche.
Ouais, puis faut voilà. Moi, c'est je veux bien qu'on dise, ils ont pas le calendrier du PSG, ils ont pas non plus l'effectif. Donc voilà.
Non mais il y a pas que le PSG.
C'est une équipe,
Je parlais le PSG, mais même les autres équipes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un.
Oui, mais à partir du moment où t'as jamais mis un pied en Coupe d'Europe, en fait, peu importe l'équipe que tu joues, même s'ils avaient joué Bratislava.
Non mais
j'entends ce que tu dis.
Je comprends ce que tu dis. Mais avant, tu sais, le deuxième de groupe qui finissait contre un premier en huitième de finale, il y avait une manière aussi un peu bizarre, alors qu'il y avait des deuxièmes de groupe qui étaient extrêmement forts par rapport à leur groupe à eux, qui était plus difficile qu'à l'autre groupe. Donc l'injustice du foot, elle se retrouve toujours quelque part.
Alors qu'on a l'impression, Salim, que la grosse machine en face, qui est le Real Madrid, semble avoir plus de cohérence.
Ah, mais là, il y a quelques semaines, le discours qu'on avait sur le Real, où on était inquiets, on se posait même des questions sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Vous allez me dire, ça va très vite, hein, parce qu'il y a deux semaines, après, il y a les Clasico, la défaite 5-2 face au Barça, où on se posait des questions sur Ancelotti, sur pas mal de joueurs.
Sur une super coupe.
Mais malgré tout, vous en prenez 5 face au Barça, hein, malgré tout.
Et là, après
en avoir pris 4, effectivement, chocolat. Là, quand même, il y a des certitudes qui sont en train de s'affirmer. Ben, le cas Kylian Mbappé, qu'on ne le veut pas, il est en train de revenir.
Non, mais surtout tous les attaquants hier, c'était quand même joli à voir, si c'était en face un adversaire un peu.
Et même, encore une fois, dans le championnat, même si c'était Las Palmas le week-end dernier, des liens, il y a des choses qui se passent entre les joueurs où on se dit, ah, là, on est en train de voir des choses qu'on n'avait pas vues, justement, en ce début de saison, en tout cas, en première partie de saison. Où on se dit, ben, le Real recommence cette machine. Et puis, symboliquement, encore une fois, d'avoir pris la tête du classement de la Liga, d'avoir 7 points d'avance sur Barça, en termes de symbolique, ça compte aussi.
Naïm, en même temps, il reste quand même un point noir dans cette équipe blanche. c'est quand même sa défense.
Bah oui, mais ils ont combien de blessés aussi?
Non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hier aussi, j'imagine bien. Alaba fait son entrée, on en a parlé, au cours de la deuxième mi-temps, pour le faire revenir dans le jeu. Pour parce qu'ils en ont besoin, là.
Mais ça a toujours... c'est le problème du Real depuis 2 ans, c'est qu'en fait, ils ont quasiment un blessé d'entrée. De saison derrière. Toujours un joueur.
Des fois, c'est le gardien.
Et en plus, ils ont même eu Courtois. Et en plus, voilà, ils ont même eu Courtois. Et après, on prend le pari des jeunes. Je veux dire, Asensio, il a 21 ans. Faut bien le lancer à un moment donné, mais il faut bien qu'il s'y fasse. Et puis, Federico Valverde arrière droit, c'est quand même pas là où il est le plus efficace.
Donc, ça a toujours.
Non, mais vous avez raison de le souligner. Vous avez raison de souligner que Tchouaméni, par exemple, n'a pas joué. Alors que généralement, il l'utilise un peu en défense centrale. Donc, c'est le point noir. Mais en même temps, quand il y a autant de talent devant et au milieu, bon.
Ce point noir est compensé. Par, je trouve, la capacité à Ancelotti à toujours trouver des solutions quand même sur la durée. Alors peut-être que parfois ponctuellement il y a des ratés, Tchouaméni en défense centrale c'est pas toujours bien, mais quand même il trouve des solutions et il est servi par des doublures. Lounine l'année dernière a fait une campagne européenne jusqu'à la finale. Alors la finale elle est rejouée, Courtois il joue qu'un match, il joue la finale, il est fantastique face à Dortmund, mais Lounine avait fait une campagne incroyable.
Est-ce que, pour revenir juste quelques secondes sur le classement général qu'on a, parce qu'au début, donc, on a vu Brest qui, à un moment, avait été premier à l'issue d'une soirée. On a vu ce groupe des 8 avec des noms surprenants. Est-ce que là, on peut s'attendre à rentrer dans l'ordre et surtout à de la casse, Salim, ou finalement non? 24 sur 36, pratiquement les gros seront tous là.
En tout cas, sur les 24, oui, parce que City, alors la seule question, c'est effectivement City Bruges, au final, soyons honnêtes. Même si, après ce qui s'est passé hier, je vois quand même Paris se qualifier aussi. Mais c'est vrai qu'après eux, les gros, ils seront là.
La seule casse, c'est Leipzig. Si on part du principe,
avec un loupé total sur les 6 premières journées pour cette équipe.
Cette formule, c'est vrai, Dominique parle d'enjeu et elle est spectaculaire, on voit des buts. Après, le fait que ton classement dépende aussi d'équipes que tu n'as pas jouées dans des matchs auxquels tu n'as pas participé me dérange un peu. On peut quand même supposer que 24 équipes qualifiées, là où tu en avais 16 sur la formule précédente, tous les gros vont y être. Alors après, peut-être que t'en as, tu te dis, ils vont être dans les 8 et puis finalement.
Ils ont pris leur temps, quoi.
Voilà, ils seront barragistes,
C'est déjà une sorte de ligue fermée, donc c'est pour ça que.
Ce qui était déjà la Ligue des Champions.
Ce qui va être intéressant, c'est effectivement, encore une fois, on le rappelle, le classement au final, parce qu'être 24e, ça veut dire que vous affrontez le 9e en barrage.
Alors c'est pas exactement ça. Il y a un tirage au sort, 9e, 10e, et après.
Il y a un choix pour pas savoir avant, pour pas
calculer. Vous avez absolument raison.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura cette énorme soirée multiplex qui sera retransmise sur RFI.
Oh là là,
toute la soirée avec des envoyés spéciaux.
Je me brancherai à Stuttgart.
Cédric sera à Stuttgart.
Avec peut-être Thomas, un consultant avec moi.
Et Thomas de Saint-Léger sera, lui, du côté de la Bretagne. Donc ça promet cette huitième et dernière soirée de cette nouvelle formule, puisque formule nouvelle, il y a. Pour terminer, on va faire un petit tour eh bien, dans nos armoires, dans nos tiroirs, pour déballer les souvenirs.
Panini, c'est ce petit plaisir, celui d'ouvrir la pochette, d'espérer trouver la perle rare et surtout de bien la coller dans un album.
Commencé jeune, j'avais 10 ans. Ça, c'est en stickers. Et cette version-là, pareil, hein, mais en carte.
J'avais réussi à le terminer parce que j'avais toujours les vignettes en double et c'est infernal à la fin.
Et oui, ils ont la vignette qu'ils cherchaient, c'est magnifique. Ce sont des champions, ce sont des légendes, ce sont des collectionneurs Panini.
C'est pour beaucoup une Madeleine de Proust, et... ce mot, ce nom, cet objet qui immédiatement eh bien, nous transporte en un moment heureux de l'enfance. Panini, celui où on avait un album des joueurs du championnat de France et quelques mois pour le remplir en achetant des pochettes, un paquet de pochettes où on tirait hein, les vignettes. Voilà, exactement. Il n'y a même plus de marchand de journaux, presque pas. Ça. Ou alors on les échangeait à la récré, bien sûr, ces albums que certains ont conservés hein, puisqu'ils fêtent leurs 50 ans depuis 1960. La société Panini édite l'album de la saison du championnat. Vous en avez eu un, Naïm ?
Oui, j'en ai eu plusieurs.
Plusieurs ?
J'en ai eu plusieurs. C'est les souvenirs où on allait au tabac avec ma grand-mère chercher les pochettes, les autocollants. Alors, c'était toujours très bien quand t'en avais que tu connaissais pas, mais je pense n'avoir jamais réussi à compléter un album.
C'est normal.
Il manquait toujours 2-3 joueurs dans une équipe. Et je me rappelle qu'à la dernière page de l'album, il y avait marqué « S'il vous manque tel et machin, faites-nous un courrier, donnez l'adresse. » Et puis, voilà, moyennant finance, bien sûr, ils t'envoyaient les étiquettes.
Je crois, mais
des fois, c'était très frustrant. Sur un pays, sur une équipe, t'en manquais un.
Bien sûr, c'est vrai.
Ouais, je me rappelle, c'est des bons souvenirs.
Dominique, vous aussi ?
Écoutez, ça a été longtemps la... Comment dire, la façon la plus motivante d'aller à l'école, hein. Parce que il fallait changer les vignettes à la.
C'était pas le flou.
Non, mais bon, c'était tu disais, enfin, il y a une bonne raison, quoi. Alors, on va pouvoir échanger des vignettes.
Ah, ça en dit long sur la scolarité de Dominique Sévérac, hein.
Comme j'ai un frère plus âgé, on a commencé dès 75 à mettre ça. Alors, moi, j'étais un peu jeune à l'époque, hein, j'avais 12
ans. On les collait à l'époque.
Voilà, on les collait. Hein. Et puis, voilà. Oui. Donc, j'ai eu jusqu'à ce que ça me passe, évidemment. Un jour, on grandit à Nîmes, et puis, on n'a plus envie de. Voilà. De faire ça.
Et vous les avez gardés
Avant des déménagements, oui. Puis après, ça se perd dans les déménagements.
Cédric, vous en aviez eu un, vous aussi ?
Ouais, j'en avais eu un. Et premier saison 1994-95, parce que j'avais suivi avec attention la Coupe du Monde 1994. Et du coup, derrière, il me fallait suivre ce championnat de France.
Salim, vous collectionnez les maillots, on le sait. Mais est-ce que vous collectionniez aussi des albums Panini ?
Oui, oui, pareil, un peu comme Naïm, effectivement, avec toujours cette agacement à la fin quand il nous manquait un ou une ou deux vignettes, on disait ah, mais la joie parfois quand on avait les brillantes, on disait ah, j'ai le brillant ou j'ai l'écusson qui est brillant de telle équipe. Donc là, c'était la petite joie quand vous ouvrez et que vous n'arrivez pas encore à voir les autocollants, mais vous voyez, vous essayez de les toucher et là je vois le brillant, je fais ah, et je le sors direct.
Et puis on les collait sur les cartables, on les collait sur les trousses, on les collait.
Moi, Johnny Rep,
à peu près partout.
Tu pouvais à peu près faire une hiérarchie des pays, parce que les pays qui étaient un peu moins comptés, je me rappelle au Mondial 94, l'Arabie Saoudite, la Bolivie, t'avais deux joueurs par étiquette. C'est vrai, c'est que les gros pays, t'avais un joueur. Et les tout petits pays, la Bolivie, l'Arabie Saoudite, t'avais deux joueurs par étiquette. Donc là, tu savais que c'était un pays un peu... Bon, vous allez se faire sortir rapidement.
Ouais. Aujourd'hui, cas, d'ailleurs, c'est plus simple de faire des échanges maintenant avec grâce aux plateformes de vente en ligne. C'est plus facile.
Mais alors, juste pardonnez-moi, grâce en tout cas à ces albums, c'est aussi ça de notre jeune âge qui nous a permis de connaître encore plus les équipes.
Bien sûr.
La
géographie.
Comme avec les France Foot à l'époque, les dernières
pages.
Ça a aussi aidé à ma géographie, etc.
Ça a fait des émules parce que tu avais toujours des boîtes qui voulaient copier un peu Panini, qui te faisaient des images en carton. Alors moi, me rappelle, j'avais des images en carton. Tu avais le nom du joueur, nationalité, machin. Et derrière, quand tu retournais, tu avais parcours, sa carrière.
D'où il venait.
On apprenait des choses. D'entreprise concurrentielle.
À ton ancienne institutrice, tu lui dirais que tu gagnes ta vie un peu grâce au football.
Je veux dire un peu ça.
Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir collectionné, même quand ils étaient enfants, certains grands joueurs, un joueur champion du monde 98, champion d'Europe 2000, champion d'Angleterre 2004 dans
Robert
Les Invincibles.
Robert Pires.
Hein, quand, lorsqu'il était à Metz, lorsqu'il était à l'OM, il a eu sa figurine Panini, c'est donc Robert Pires.
Quand je commence le football, j'ai 7 ans. Alors oui, c'est ce que je voulais faire. Oui, c'était mon rêve, mais je ne m'étais jamais imaginé être un jour dans l'album Panini, comme je ne m'étais jamais imaginé jouer pour l'équipe de France. Tu vois, parce que ce sont des rêves. Alors, tu as envie qu'ils se réalisent, tu as envie qu'ils se concrétisent, mais disons que... Encore une fois, quand tu as 7 ans, comme j'avais à ce moment-là, non, c'était juste avoir une collection. Cette collection, ça a coûté de l'argent à mes parents. Je sais qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et eux aussi, quand ils ont vu que leur fils était justement dans l'album Panini que je collectionnais quand j'étais petit, tout le monde était content et extrêmement fier.
Voilà, extrêmement fier. Il a coûté cher à ses parents au début, mais il a dû leur rembourser.
Il y a une chose dont me parlait, c'était il y a quelques années, José-Pierre Fanfan, qui a toujours, alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais à une époque, il avait des responsabilités au sein de l'UNFP, pour les joueurs, c'est
l'UNFP.
L'UNFP, merci. En fait, en termes de droits d'image, oui, parce qu'on revient aussi à ça, mais forcément, le fait d'avoir le visage de, Gonçalo Ramos, mettons en vignette Panini, ben, c'est un droit d'image, en fait, mm-hmm. que le joueur ou via le club vous donne.
Avec la ligue de...
Et le truc qui m'avait raconté cette anecdote, c'est qu'un jour, il avait ses accès encore au PSG, qui était déjà qataré, mais à ses débuts, et il va, dans le vestiaire du PSG, déposer des enveloppes avec les noms de chacun des joueurs, des enveloppes avec des chèques, en l'occurrence, puisque, droit à l'image, vous êtes rémunéré. Il n'y avait que... Enfin, que quelques centaines d'euros dans chaque enveloppe. Et à la fin du match, il repasse pour récupérer les enveloppes, en tout cas pour les remercier, puisqu'après, il n'y avait plus d'enveloppes. Il me disait que quasiment toutes les enveloppes étaient restées, les joueurs, ça ne les intéressait pas.
Ben oui. En tout cas, on va écouter un autre joueur, un grand. Alors lui, il a été l'attaquant du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2008. 109 buts, collectionneur à jamais.
Monsieur Paoletta.
Bien sûr, Pedro Paoletta. Écoutez, alors lui, il a commencé avant, il continue après.
Je me rappelle très bien quand j'étais petit de faire la collection au Portugal. Et à partir du moment que j'étais joueur, par exemple ici en France avec la Panini, je faisais chaque année. Et après mon fils, c'est lui qui a continué à faire ça. Et c'est toujours une énorme fierté. Quand tu regardes que ça sort ta carte, c'est magnifique. J'ai toute la collection de 8 années que j'étais en France. Et c'est une fierté énorme. C'est vrai, quand tu es petit, ton rêve, c'est regarder la vignette de certains joueurs. Mais après, quand tu es joueur, je crois que tous les joueurs, si vous demandez à tous les joueurs qui sont là, tous les joueurs, ils avaient envie que ça sorte sa vignette. C'est une fierté.
Et c'est ce dont témoignaient d'ailleurs tous ces joueurs quand, à la cérémonie à laquelle j'assistais. C'est, quand on était dans l'album, on disait « ça y est, quoi ». Ça y est, j'y suis, alors que j'ai tellement rêvé d'y être. Et alors, il y en a qui débarquaient en France, qui ne connaissaient pas l'album Panini. Les figurines, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Un joueur venu de loin, passé par Marseille, Monaco, et enfin l'Olympique Lyonnais, deux fois champion de France. Il a inscrit 138 buts en 221 matchs.
Lyon, Marseille, Monaco.
C'était Marseille, Monaco, Lyon.
Marseille, Monaco, Lyon.
Quelle époque?
Fin des années.
Sonny Anderson.
Exactement.
Ah,
Sonny Anderson.
Venu de loin, oui. Bah, hein? Oui,
il, bah oui, loin, il vient du Brésil. Vrai, vient loin, écoutez, lui, il a découvert Panini et Panini l'a découvert aussi.
En 93, quand je suis arrivé à Marseille, à l'époque, ils avaient déjà tout fait, les figurines. Et je me souviens que la mienne, elle était faite sur une action de match qu'ils ont fait. Et après, la vraie, c'était quand je suis arrivé à Monaco en 94. C'était la rentrée de classe pour tout le monde parce qu'il fallait qu'on soit beau, qu'on soit bien coiffé, bien rasé, parce que cette figurine, tout le monde allait voir chez eux. On allait même les collectionner. Certains de mes collègues footballeurs, ils m'ont expliqué que voilà, c'est quelque chose qu'ils allaient garder. On voyait ça de partout. Les gens venaient nous faire signer. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de photos sur le téléphone. C'était les Panini qu'on signait. Il fallait se battre pour signer parce qu'elles étaient tellement petites que chaque fois, il y avait un gros stylo et il fallait trouver la place pour signer.
Est-ce que vous les avez gardées, vous, les figurines Panini qui vous représentaient?
Oui, imaginez toutes celles de championnat de Ligue 1. Elles sont à la maison. Bien sûr qu'on le garde qu'on met de côté parce que ça fait partie de notre carrière.
Sonny Anderson et son bel accent.
Et ce qu'il évoque, effectivement, sur le côté, quand vous vous souvenez des vignettes, en tout cas les premières qui me viennent à l'esprit, mais chaque équipe, et même quasiment tous les joueurs, se ressemblaient vraiment. Le cadre était très clair, avec les couleurs étaient différentes.
Avec les modes,
autour,
les coupes de cheveux, les barbes
mais,
ou pas barbes.
Mais surtout, c'était vraiment fait de la même manière, parce que c'était très cadré au final. Ouais. Il fallait que le visage soit comme ça, etc. Aujourd'hui, c'est à peine si on prend le temps de faire des photos chez les clubs, alors qu'à l'époque, c'était vraiment très, très précis.
Ouais. En tout cas, il y a évidemment l'évolution de la technologie. technologie. Hein, maintenant, il le dit, Sonny Anderson, il n'y avait pas les téléphones à l'époque et il n'y avait pas les selfies, puisqu'ils ont remplacé les autographes à l'heure actuelle. Mais malgré tout, alors l'évolution de l'album, c'est qu'on a ajouté des pages sur l'arbitrage. Maintenant, il y a parfois des équipes féminines, quand c'est 2019, la Coupe du Monde en France, ou quand l'OL fait de si belles performances sur la scène européenne. Mais les jeunes collectionneurs restent fidèles, et c'est ce qu'a raconté le président de l'antenne française de Panini, la filiale de la société italienne, hein, Matteo connaît ça mieux que nous, un certain Alain Guérini.
La magie, elle existe entre d'un côté nos collectionneurs et de l'autre côté leurs héros qui sont les joueurs professionnels de football. On est dans un monde numérique, mais le fait d'avoir une possession physique, d'avoir cette image, c'est un peu comme les images pieuses dans le temps. Cette image que l'on peut mettre là dans sa poche, sur son cœur, c'est quelque chose qui rassure. En plus, c'est intergénérationnel. Le fait d'aller au stade ensemble et le fait de faire la collection avec son père, avec ses parents, c'est formidable. Par contre, l'âge de nos clients, l'âge moyen, s'est réduit. À l'époque, on était sur des 6, 7, 15 ans. Aujourd'hui, on est sur des 5, 10 ans.
C'était un grand moment aussi de découvrir à quoi ressemblait un joueur parfois qu'on connaissait évidemment moins.
On connaissait le nom
médiatique.
Souvent ou pas forcément la tête. Et puis il ne faut pas oublier que nous, on peut faire les vieux, mais avec Salim, on est de la même génération. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc en fait, on voyait les joueurs quand il y avait le match à la télé. Et puis après, c'était les étiquettes, justement. C'était le 11 mondial ou les étiquettes. Alors qu'aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, bah avec Internet, avec l'ordinateur à la maison, avec le smartphone, et puis des matchs, il y en a trois fois plus qu'à notre époque, oui. Ils voient beaucoup les joueurs. Donc il y a peut-être moins l'envie, le désir d'avoir, de coller l'étiquette. Et...
Les posters ont disparu.
Voilà, puis les posters
les
ont
posters,
disparu.
Les posters, exact.
Putain, t'as bien sûr. C'est FIFA.
Ouais, voilà.
Oui, et puis, bien sûr.
Ça marche beaucoup. Hein. Ça marche
c'est
beaucoup.
Vrai. Ouais. Mais donc c'est pour ça qu'il explique hein, qu'en fait, ça allait jusqu'à 15 ans avant. Maintenant, à 10 ans, ça s'arrête. Et 10 ans,
ça
c'est à peu près l'âge.
Bah, c'est l'âge où généralement t'as le premier smartphone, non
Ta vie se termine. Et peut-être. Ta vie se termine, tu deviens adulte.
La vie innocente.
T'en as une discussion là.
Et là, on commence à jouer aussi à FIFA, effectivement, et à tout ça. Et du coup, c'est moins drôle. En tout cas, chers auditeurs, Panini nous a gentiment cédé un album avec toutes les vignettes à coller, mais avec tous les paquets.
Ah, mais c'est ça, ouais, c'est ça le plaisir. C'est de pouvoir
triche.
Les coller.
Exactement,
voilà.
Choisir.
Mais c'est de la triche, Annie.
Non, c'est pour nos auditeurs. Parce qu'en Afrique, autant au Brésil, maintenant, Panini s'est étendu jusque là-bas. En Afrique, ça reste compliqué. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de recevoir cet album, inscrivez-vous sur notre page Facebook de l'émission. Dites-le, expliquez-le et on récompensera l'auditeur le plus motivé. On lui enverra l'album.
Je vais écrire Annie. Je vais écrire.
Mais vous avez le droit, Dominique. Mais alors, il faudra un pseudo, hein, Dominique, oui. Parce que quand même...
Je vais mettre Naïm 90.
Il faudrait un album Panini Radio Foot, tiens, Annie. Est-ce que vous ne voudriez pas lancer ça, tiens, avec tous les autocollants de Dominique, de Naïm, Cédric,
ça
etc.
Serait bonne idée, ça.
Pas mal, ça va être un petit album.
Bah après, Naïm, on l'aura en double tout le temps. Donc voilà.
Déjà, un, c'est dur à supporter. Trois, six.
Et Dominique avec le côté brillant.
Ah aussi. Oui, merci.
Après, on verra l'évolution de nos consultants, on verra les coupes
c'est
de cheveux.
C'est vrai qu'on voyait Raymond Domenech dans les années 70 avec ses moustaches.
Énormes, les gros sourcils.
On savait déjà qu'il avait envie de faire mal sur un terrain, quoi. Son physique disait tout. Hein. J'ai rien contre les moustachus et les barbus, mais...
Est-ce que c'était la vignette difficile à trouver, celle de Domenech? Non, c'était plutôt Platini, plutôt Rocheteau.
Ah, ça, c'est pas mon époque, c'est...
Oui, c'était... En tout cas, c'est celle qui se demandait le plus au marché noir de l'école.
Ouais.
C'était les Platini, les stars offensives.
Il fallait avoir des bons copains.
Parce qu'en fait, comme je vous le disais, on aimait les avoir en double parce qu'on les mettait partout, sur le frigidaire, sur la trousse. Mmh. Les parents devenaient fous. Hein. Mmh. Il y avait du Alain Giresse et du Michel Platini à toutes les maisons. Ils devenaient dingues, les parents.
Ouais, et il y avait peut-être celle de Marius Trésor, hein, dont on a parlé la semaine dernière, et qui était dans l'équipe de France. Parce que maintenant, ils ont fait aussi des albums pour l'Euro, pour les Coupes du Monde.
Bien sûr.
Il faudrait faire un Euro.
Et c'est parfois embêtant parce que les effectifs changent. Entre ce qu'ils préparent et les blessures. Et
pour moi, c'est du pas béni, les mercato, parce que comme ça...
Attends, j'ai un souvenir de ce que tu me dis. Ouais. L'Euro 96, il y a l'étiquette de Cantona Ginola, alors qu'ils ne font pas l'Euro.
Exact. Ah ouais, ça c'est
touriste. Oui, des fois, on se souvient de Ribéry, hein, qui ne va pas à la Coupe du Monde, finalement.
En 2014.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Souvenez-vous aussi, chers auditeurs, demain, c'est le Café des Sports. On attend donc vos cartons. Et n'oubliez pas les conseils donnés sur Facebook pour rentrer dans le cadre. Merci à tous, merci messieurs, et
merci.
À demain.
Bye.